Rebonjour à toutes et à tous. Et je voudrais juste préciser au départ que ce n'est pas une méthodologie innovante, c'est une méthodologie qui a déjà été utilisée, qui a fait ses preuves. Peut-être que l'innovation, dans mon cas d'étude, c'est que c'est un terrain qui est à Tunis et lors d'une temporalité exceptionnelle qui est le processus révolutionnaire tunisien. Donc voilà. Donc là, je vous présente un petit peu je vous mets un petit peu dans le bain, dans le contexte justement révolutionnaire en Tunisie, et je parle d'espace public entre conquête et réappropriation. En fait, la question du rapport affectif au lieu s'intègre dans une approche sensible de l'expérience urbaine. C'est d'autant plus un sujet d'actualité dans la contemporanéité d'aujourd'hui, à l'heure des mutations et transformations politiques contemporaines à l'échelle globale. En effet, les mouvements de contestation contemporains, tels que les révolutions de ce qu'on appelle le printemps arabe ou l'installation des camps de réfugiés syriens dans des pays comme la France ou l'Allemagne, posent à nouveau frais la question du rapport de l'homme à sa ville et plus généralement à l'urbain. Donc comment se saisir de ce rapport qu'entretient l'homme avec l'espace qu'il pratique? Comment rendre compte des liens que tisse l'habitant avec sa ville? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre dans ce travail. Donc en décembre 2010, je vous fais un petit peu l'historique bref de ce qui s'est passé en Tunisie, l'immolation par le feu d'un jeune vendeur ambulant de la ville de Sidi Bouzid qui se trouve au centre de la Tunisie a été à l'origine d'une vague de manifestations qui a touché toutes les villes tunisiennes pour finir par embraser la capitale Tunis et conduire à la fuite du président déchu Ben Ali le 14 janvier 2011. L'un des acquis fondamentaux de la révolution tunisienne est bien la libération de l'espace public. Fraîchement conquis, cet espace-là a vu émerger de nouvelles pratiques sociales très diversifiées. Nous avons alors pu observer différentes manières d'occupation de l'espace public qui marquent cette nouvelle réappropriation, notamment les manifestations artistiques, les manifestations politiques, les sit-ins. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas et qu'on connaît tout récemment, c'est-à-dire depuis 2011. Ainsi, l'espace public n'est plus un espace privé d'un État dictateur, il est devenu l'espace de partage. C'est dans ce contexte donc, de processus révolutionnaire que nous posons la question du rapport affectif au lieu. Donc, je vais présenter un quartier résidentiel, et j'ai fait exprès, vous comprendrez pourquoi après. C'est un quartier qui est situé à quelques kilomètres du centre-ville de Tunis. Il est à prédominance d'immeubles d'habitation et de villas, occupé par une classe sociale moyenne et aisée, où il y a une grande proximité des centres commerciaux et où il y a le jardin public comme cœur du quartier. Donc comme vous voyez un petit peu sur la légende, tout ce qui est en marron, ça représente les immeubles et villas, le jardin public il est en vert et les centres commerciaux un petit peu éparpillés dans tout le quartier. Donc là, moi, je voudrais proposer justement cette méthodologie de passer de la parole habitante, du discours, du texte, à la typologie figurative. Donc, comme une docteure qui fait partie du Cresson, j'ai utilisé les enquêtes qualitatives utilisées au Cresson, donc à savoir les entretiens semi-directifs, les parcours commentés qui ont été élaborés par Jean-Paul Thibault, et enfin la réactivation par l'image qui a été aussi utilisé par Jean-Paul Thibault et aussi par d'autres, par plusieurs, dont là j'ai oublié le nom. Et donc cette typologie figurative, donc elle est passée, donc je passe d'une phase exploratoire d'immersion sur le terrain jusqu'à une phase analytique, et c'est là où va résider justement cette typologie figurative qui se déroule en deux étapes. Donc il y a l'étape de dépouillement et ensuite l'étape d'interprétation. Cette étape de dépouillement, il s'agit de classifier la parole habitante et la classification se passe justement selon trois sources de parole, c'est-à-dire les actions, je vais faire ceci, je vais aller par là, le jugement, cet espace me plaît ou cet espace ne me plaît pas, je me sens à l'aise ou pas, et sinon il y a aussi les images et les métaphores qu'utilisent en général les usagers de l'espace public pour exprimer leurs sentiments ou leur perception de l'espace qu'ils pratiquent. Donc cette étape de dépouillement elle met en place un processus de catégorisation, elle permet en fait de dresser des catégories qui réunissent des extraits d'entretiens ont des unités de sens, mais dont le lien n'est pas encore vraiment explicite, et même si elles font émerger les centres d'intérêt et les sujets que traitent les enquêtés de manière récurrente. Et c'est là où va servir la deuxième étape, qui est celle de l'interprétation. Et donc, il s'agit justement de rendre compréhensibles ces catégories-là pour aboutir à des résultats qui soient rigoureux sur le plan scientifique, parce que on est bien là dans des enquêtes qualitatives et très sensibles. Donc, il faut que ça soit cohérent et que ça donne une rigueur et une objectivité scientifique. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à ce qu'on appelle la figure. Donc, la phase d'interprétation, finalement, elle obéit à deux exigences. Donc, on doit d'une part organiser la parole des enquêtés de manière à construire un discours cohérent et représentatif de chaque catégorie, et ensuite pouvoir communiquer ces connaissances-là qui sont récoltées pour qu'elles soient claires, compréhensibles et synthétiques, et donc arriver au final à faire émerger un champ sémantique. Et la figure, dans ce sens, ou la figure type, se présente comme une synthèse d'un ensemble de paroles recueillies qui couvrent une même thématique, et que la figure va mettre au jour de manière plus complète, et donc elle va rassembler un petit peu les images éparpillées et décousues dans la parole habitante. Moi, dans mes enquêtes et après dans cette phase de dépouillement et d'interprétation, j'étais partie justement sur ces trois modalités là qui ressortent normalement du discours, c'est-à-dire l'agir, le ressentir et le juger. Mais dans le discours des enquêtés à qui j'ai eu affaire, il y a eu une nouvelle modalité qui est ressortie et qui est celle du paraître. Les gens, c'est-à-dire depuis ce processus révolutionnaire là, ils parlent de leurs mœurs vestimentaires, de leur accoutrement, quels vêtements ils portent depuis la Révolution, s'ils ont changé. Par exemple, il y a des jeunes filles qui disent « Nous, on ne porte plus de jupes courtes parce qu'on a peur de se faire agresser. » Ou bien, sauf si on va se déplacer en voiture, donc on pourra porter nos bijoux, on pourra porter telle chose, mais si on va se déplacer à pied, on ne pourra pas. Et ça, pour elles, c'est nouveau, c'est venu justement après la Révolution. Et donc, la modalité de paraître, elle apparaît dans le discours et elle s'ajoute aux autres modalités de classification. Et ça marque aussi une volonté de se positionner parce que, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine forme de perte de repère depuis cette révolution-là. Et un mot qui a été vraiment récurrent dans toutes les enquêtes que j'ai faites, c'est qu'on parlait du regard, le regard de l'autre. Ce regard-là qui surveille, ce regard qui juge, ce regard des fois qui fait peur. Et donc, et ça a eu une incidence directe justement sur cette manière de paraître, sur ce moi, sur la face visible du moi, c'est-à-dire le corps, et comment on le présente aux autres, et comment on le présente à l'espace qu'on pratique. Donc finalement, j'ai pu... avec cette méthode-là de catégorisation, j'ai pu... faire ressortir un certain nombre de figures que vous voyez là sur l'écran. Donc ces figures-là, elles relèvent vraiment de la perception, c'est-à-dire elles montrent comment on perçoit la ville après un bouleversement politique. En fait, nous sommes bien dans une situation qui relève de la temporalité. Il y a toujours cette comparaison d'un moment par rapport à un autre moment passé, c'est-à-dire l'avant-après. Et c'est un petit peu... moi, ça m'a un petit peu surprise parce que dans le discours, il y a des seuils qui déterminent cet avant-après. Parce que finalement, le processus révolutionnaire ne s'est pas arrêté qu'au 14 janvier 2011. Il a bien duré jusqu'à 2014 et je dirais bien jusqu'à maintenant. Et en fait, les gens, ils ne parlent pas d'un changement avant-après-révolution, des premiers mois de la révolution, mais ils prennent comme repère temporel l'année 2012. Et l'année 2012 a été une année vraiment sanglante en termes de terrorisme, en termes d'attaques et de violences, même d'altercations entre... les forces de l'ordre et les citoyens en général. Et donc voilà, c'était vraiment l'année où un petit peu tout a basculé et qui définit cet avant-après. Donc ces figures-là sont donc des figures de la perception urbaine qui définissent différentes configurations de la ville. Donc nous ne sommes pas dans la matérialité, c'est-à-dire dans la conformation spatiale et physique du lieu. Et là, je fais un petit peu référence à Alain Régnier qui fait cette différence entre conformation conformation spatiale et configuration spatiale. La conformation étant ce que nous, on conçoit en tant qu'architecte et qui est issu de la programmation, alors que la configuration, c'est plutôt l'espace tel qu'il est vécu par l'usager, surtout dans son expérience temporelle, c'est-à-dire qu'on a une expérience de l'espace qui diffère du matin à midi, le soir, s'il y a manifestation ou pas, s'il y a attentat ou pas. Et donc, finalement, relever ces différentes configurations de la ville nous place finalement au cœur même du rapport affectif au lieu. Et moi, j'ai construit ces figures types que vous voyez là. Donc, on a le cœur assiégé, la saleté, le rejet, etc. Et à chaque figure type, en fait, je me suis rendu compte, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas travaillé que sur ce quartier-là résidentiel. J'ai travaillé sur l'avenue principale, l'avenue Bourguiba, qui est au centre-ville de la capitale de Tunis. J'ai travaillé aussi sur un quartier populaire d'où est parti réellement le premier, on va dire, feu ou la première manifestation ou révolte dans la capitale de Tunis. Et donc, je voyais que même si j'avais des figures que je retrouvais sur ces trois terrains-là, il y avait quand même des nuances dans ces figures-là. Et c'est ce qui m'a poussée à définir et à creuser un petit peu, comprendre c'est quoi ces nuances et à dresser donc des profils que vous voyez comme le surveillant, le surveillé, le salisseur, le dégoûté. Donc là, les profils construits correspondent à ce qu'en sémiotique, Grémas appelle les actants. Et en fait, l'actant est un élément, une entité abstraite qui est définie par une structure de relation, alors que l'acteur est une entité concrète. Donc ici, l'actant est vraiment une figure de l'acteur. Ce ne sont pas des profils psychosociologiques, ce ne sont pas des personnes que je présente en tant que profil, mais c'est vraiment des actants. C'est vraiment, on dirait, un personnage qui est composé de plusieurs petites parties et qui forme finalement un puzzle et qui nous donne un petit peu ce rapport, ces différents justement rapports affectifs au lieu. Donc là, comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je vais juste focaliser sur deux figures et deux profils. Donc je vais parler de la figure type qui est la saleté et je vais présenter le profil du dégoûté. Et ensuite je vais parler de la figure type de la résistance et je vais présenter le profil de l'artiste. Donc je commence par présenter donc les figures de la saleté et je voulais justement montrer comment le politique il intervient dans la construction de ces figures-là et j'attends que et donc par exemple là la question du laxisme du gouvernement qu'on a c'est bon. Je peux continuer. Donc, la question du laxisme du gouvernement, ça s'est traduit par des grèves, par exemple, répétées des agents de municipalité, par un laisser-aller aussi général des citoyens qui jetaient un petit peu leur saleté un petit peu partout. Et donc, pourquoi je dis laxisme ? Parce que, justement, depuis l'année 2012, ces agents-là de municipalité, ils n'avaient pas un statut vraiment régulier. Et une fois qu'ils ont été intégrés dans la fonction publique, c'est là qu'ils ont commencé à faire des grèves. Et c'est là que nous, on a commencé à voir les ordures s'entasser. Et donc, ça a eu un impact, bien sûr, direct sur la matérialité de l'espace urbain. Donc, on voyait des détritus, des sacs poubelles qui sont déchiquetés par les chats, les rats, et aussi un petit peu partout des sacs plastiques. Et ça a donné lieu, justement, à ces figures de la saleté et à un ressenti de dégoût, de déplaisir à marcher dans les rues. Et bien sûr, il y a aussi la figure du salisseur qui, lui, il salit cet espace-là. Donc, ça, c'est des figures qui sont finalement des figures de rejet et qui sont liées par des conditions matérielle. Et donc voilà, moi je fais un petit peu cette planche là, désolée pour la photo, elle n'est pas très agréable. Donc on a le dégoûté qui considère la ville comme une benne à ordures et maintenant je vais vous lire ce que moi j'ai écrit pour décrire ce dégoûté. Donc le dégoûté détourne le regard, la moue de dégoût transformant son visage en un rictus. Il plisse le nez, retient sa respiration et accélère le pas. Il détecte les saletés à des mètres, comme s'il cherchait pour mieux les éviter. Le dégoûté voit la laideur, déplore l'état des rues. Il ne flâne pas, il n'a pas de plaisir à marcher dans les rues. Il se retrouve dehors par nécessité. Il préfère prendre la voiture que faire des trajets à pied. L'important est de ne pas voir, de ne pas sentir. Il est frappé de plein fouet par la saleté qui le choque et l'attriste et qui le fait rejeter la ville. Ensuite, maintenant, je passe aux figures de la résistance. Et donc là, c'est plutôt la répression policière qui apparaît. et qui font émerger ces figures de la résistance. Il s'agit justement de la violence verbale et physique des agents de police ou des forces de l'ordre, des abus de pouvoir et aussi de la maltraitance. Et donc ça traduit comme ressenti la peur, la méfiance, la rejet aussi de cette force de l'ordre qui est censée nous protéger, mais qui devient un petit peu notre ennemi, et bien sûr un sentiment de révolte. Et là, ça donne naissance justement à des manifestations, à la dénonciation de ces abus et à des ripostes. Et la riposte, ça peut être soit sous forme de graffiti, soit dans des chansons, soit dans des théâtres un petit peu spontanés, un petit peu partout dans la ville. Et donc voilà, l'artiste, il fusionne totalement avec la ville qui, pour lui, devient une scène. Et là, je vous ai mis des petits graffitis qui, en fait, ce sont des résistants tunisiens qui appartiennent à différentes époques. Et ce qui est écrit en arabe en haut, c'est « Yaribot », comme c'est-à-dire « c'est dommage que vous ayez raté ça ». c'est-à-dire la révolution. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour exprimer justement ce qu'est la figure de l'artiste. L'artiste déambule dans les rues de Tunis, impatient d'en faire son théâtre, son œuvre. Sa tête bouillonne d'esquisses, d'air de musique, de pas de danse, de poses dramatiques. Les cheveux ondulants, le pantalon large et la cigarette coincée au coin des lèvres, il colorie l'espace, le chante, fait corps avec lui. L'interdit élevé, il renoue avec cette toile vierge, rue, trottoir, arbre, lambadaire. Tout est accessoire d'artiste. Il crée, émerveille, émeut et s'émeut. C'est l'être sensible qui met à nu la sensibilité des autres. Il réveille l'espace et les âmes. Il fait parler les murs. Il fait chanter les rues. Il fait danser les arbres. Il donne vie. Admiré et admiratif, il est le porte-parole volontaire de la ville, des pensées secrètes, parfois inavouées, de ces êtres qui l'habitent. Il est poète, cinéaste, danseur. Il se livre, comme une révélation. Il semble distrait, perdu dans un monde inaccessible, original dans sa manière d'être, différent. Cette absence est de façade, car dans ses errances et déambulations, c'est un dialogue silencieux qu'il échange avec la ville, qui lui livre les secrets qu'il nous transmet. L'artiste se moque, ironise sur la situation politique dans son rap. Donc, pour résumer un petit peu, donc là, on voit bien enfin l'incidence du politique sur le rapport affectif au lieu. Par exemple, et là, j'ai fait justement cette petite synthèse que j'ai. Et là, il faut vraiment voir les choses comme j'ai fait. Enfin, le fond politique, il est massif par rapport aux faits. Et donc, par exemple, les faits, ce sont ces faits matériels, par exemple, comme la présence nouvelle des barbus, comme l'installation des vendeurs ambulants devant les mosquées à vendre djellaba et accessoires religieux. Comme le marquage territorial par des occupants informels, autant l'artiste finalement que le prieur dans la rue, où la ville devient lieu d'expression. Donc ce sont des faits matériels qui sont ponctuels. Oui, je finis, c'est tout, c'est la dernière. Sinon, finalement, c'est l'ordinaire, le quotidien. Et pourtant, ces faits-là, ils constituent et fabriquent un fond politique qui, lui, modifie le rapport affectif au lieu. Et donc, ces figures sont des figures de percevants dont la concrétude des faits matériels conditionne cette perception. Ce n'est donc pas nécessairement l'espace dans sa conformation spatiale qui conditionne l'affect. Et je finis tout simplement par ces quelques vers d'Aboul Qasem Chebbi, qui est un poète tunisien. وقالت لي الأرض لما سألت أي أم هل تكرهين البشر أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر وألعن من لا يمشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. Merci à vous.
Merci beaucoup.